Est-ce que vous savez ce que c'est cette photo-là? Il y en a certains qui savent ce que ça, où a été prise cette photo. À Jérusalem, exactement. C'est Jérusalem. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît Jérusalem quand on a une photo comme ça? Comment, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Jérusalem? La coupole dorée, exactement. Quand on a une photo de Jérusalem, on ne peut pas se tromper, parce qu'il y a un gros dôme doré. Et est-ce que vous savez ce que c'est ce dôme doré? Oui. C'est le dôme du rocher. Et est-ce qu'il y a d'autres termes qu'on peut utiliser pour expliquer à tout le monde le mont Morija? Le dôme du rocher, en fait, c'est le toit d'une mosquée. Donc le bâtiment auquel on identifie Jérusalem, c'est une mosquée. Et je trouve ça intriguant. Et c'est pas n'importe quelle mosquée en plus. C'est une mosquée qui a un intérêt particulier dans l'islam. Alors moi je connais pas du tout l'islam, donc vous irez poser la question aux spécialistes. Mais c'est le troisième lieu saint de l'islam. Donc c'est un haut lieu de l'islam, c'est vraiment une mosquée qui est très importante pour l'islam. Et d'ailleurs, en fait, sur ce lieu-là, cette place s'appelle l'esplanade des mosquées, parce qu'il n'y a pas seulement le dôme du rocher, mais il y a aussi, il y en a aussi d'autres mosquées, je ne sais pas leur nom, il y en a plusieurs qui sont là, donc ça s'appelle l'esplanade des mosquées. Et au pied de l'esplanade des mosquées, il y a un autre lieu qui est très intriguant. Je ne sais pas si on n'arrive pas à le voir depuis là, sur cette photo. Vous irez voir sur Internet, le but, ce n'est pas de vous montrer des jolies photos de Jérusalem. C'est le mur des Lamentations. Et le mur des Lamentations, c'est un lieu qui est considéré par beaucoup de Juifs comme étant le lieu le plus saint du judaïsme, actuellement, parce que c'est le lieu qui est le plus proche du Saint des Saints du Temple, et qui est encore debout aujourd'hui. En fait, le mur des Lamentations, c'est un mur qui a été construit par Hérode au 1er siècle pour pouvoir agrandir la place qui était autour du temple. Puis ensuite, quand tout a été rasé par les Romains, il est resté le mur des Lamentations, qui reste debout encore aujourd'hui, et c'est un mur qui est assez impressionnant. Enfin, il y a des tailles des pierres de taille qui sont gigantesques, je crois que la plus grande pèse 100 tonnes. Enfin, c'est un magnifique mur, et c'est un lieu qui est très saint dans le judaïsme, parce qu'il est le plus proche du Saint des Saints, et c'est là que des Juifs, que beaucoup de Juifs vont prier. Et je me dis, c'est quand même étonnant de voir que Jérusalem, c'est pas n'importe quelle ville, est reconnaissable par une mosquée. Une mosquée qui, en plus, a été construite à l'emplacement précis où était le temple. Et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'une mosquée a pu être construite à cet endroit-là? Et on pourrait se dire, ah, c'est passager. Ça va bientôt passer. Vous savez quand elle a été construite, cette mosquée? En 691. Ça fait presque 1400 ans. Alors, il y a eu 2-3 transformations entre-temps, pendant les croisades, je crois que c'est devenu une église, enfin, mais quand même, pendant 1400 ans, c'est une mosquée qui est là, à Jérusalem, et qui permet au monde entier de reconnaître, sur une photo, qu'il s'agit de Jérusalem. Et je me suis posé, je pense, peut-être les mêmes questions que vous êtes en train de vous poser, mais est-ce à cause du péché d'Israël ? Ou de notre péché, que le temple n'a pas été rebâti? Ou bien, est-ce qu'on n'a pas été assez fougueux dans notre foi en faisant péter tous ces hauts lieux musulmans? Ou alors, est-ce qu'on a un Dieu qui n'est pas si puissant que ça? Finalement, en fait, on s'est un petit peu trompé, c'est pas vraiment Jésus qui est le prince de ce monde, mais l'islam est plus puissant que le christianisme. La preuve en est que sur le temple qui symbolisait la présence de Dieu sur terre, il y a aujourd'hui une mosquée. Et c'est des questions que je me suis posées. Et d'ailleurs, si Jésus était crucifié aujourd'hui, Ben, c'est le paysage qu'il aurait, parce que cette photo a été prise sur le mont des Oliviers, à peu près, enfin, on ne sait pas exactement où était crucifié Jésus, mais à peu près à l'endroit où était crucifié Jésus. Et puis, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que Jésus, c'est le Seigneur de la terre. C'est que Jésus, il règne, et qu'il n'y a rien qui pourra l'empêcher de régner. Et puis que sur la croix, il a accompli une victoire qui est totale. Puis on lit en Colossiens que toutes les puissances ont été dépouillées sur la croix. Donc je suis convaincu que la vraie religion, que le vrai Dieu, c'est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu que nous avons envie de suivre, et que c'est lui qui est le vrai Dieu. Et je me suis dit, mais est-ce que si Dieu a permis que cette mosquée soit construite, parce que finalement, s'il est tout puissant et puis qu'il y a une mosquée à cet endroit-là, c'est que Dieu, il savait très bien, il a permis volontairement, dans sa souveraineté libre et totale, qu'il y ait une mosquée qui soit construite là. Il a permis aux musulmans de bâtir un de leurs hauts lieux à cet endroit. Et je me suis dit, mais peut-être que Dieu veut montrer quelque chose à l'humanité tout entière en laissant cette mosquée pendant 1400 ans à cet endroit-là. Une autre chose qui m'a frappé pendant ce voyage à Jérusalem, Jérusalem c'est vraiment, puis ailleurs, parce qu'on n'est pas resté qu'à Jérusalem, mais Jérusalem c'est vraiment une ville magnifique. Quand on arrive dans la vieille ville, bon déjà c'est assez spécial, parce que quand on arrive à Jérusalem, on se dit mais, waouh, c'est là que se sont passées toutes ces histoires, c'est là que Jésus a marché, c'est là que David a régné, et puis on voit ces collines, et puis il y a quelque chose qui se passe quand même, et puis c'est une ville magnifique. Il y a des remparts tout autour de Jérusalem. En plus, on peut marcher dessus. C'est des magnifiques murailles. On a une vue sur les collines environnantes. On a une vue sur la ville. Dedans, il y a plein d'églises historiques. Il y a des petites rues. C'est assez étroit. On ne peut pas se balader en voiture dans la vieille ville de Jérusalem. Puis c'est assez agréable. On est allé, il faisait, je pense, 40 degrés. Mais on a l'impression que Jérusalem a été construite pour se préparer aux fortes chaleurs. Parce que les rues étant étroites, il y a beaucoup d'ombre. Puis en plus, ils rajoutent des choses pour vraiment qu'on soit bien à l'ombre dans les rues. Et une chose qui m'a frappé, c'est de voir à quel point les églises et autres lieux saints sont pris d'assaut. Il y a une rue qui s'appelle à Jérusalem la Via Dolorosa. On suppose, enfin, que c'est là que Jésus a marché avant d'être crucifié. Alors je dis on suppose parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Et c'est impressionnant parce que la rue est bondée et il y a plein de gens qui se baladent et il y a des boutiques de chaque côté et à chaque boutique vous pouvez acheter les mêmes objets à part une ou deux boutiques qui sortent du lot, mais vous pouvez acheter des crucifix, vous pouvez acheter des mains qui prient, vous pouvez acheter des maris, vous pouvez acheter le nom m'échappe maintenant, le bonnet que les juifs mettent sur la tête, les kippas, merci. On peut acheter des menorahs, c'est les chandeliers à 7 branches comme il se trouvait dans le temple. Enfin, dans chaque boutique, il y a des articles religieux et à la fin de votre visite, vous avez envie de vomir tellement vous avez vu d'articles religieux. Et puis, les gens vont... Donc dans ce chemin, il y a différents postes avec, ben voilà, Jésus, là, Jésus, il est tombé, il s'est appuyé sur telle pierre, Jésus, il a été emprisonné à tel endroit. Et puis, en soi, je me dis, mais ça pourrait être assez intéressant. Ce serait l'occasion de se replonger sur la vie de Jésus. On a commencé cette visite dans cette attitude-là. Après, avec 3 enfants, c'est vrai qu'on a vite commencé à avancer sans forcément pouvoir prendre tout le temps qu'on voulait. Et puis, on arrive à la fin du parcours à l'église du Saint-Sépulcre. C'est là où Jésus aurait été enterré. Alors, j'ai pas fait toutes les recherches historiques nécessaires. Là, de nouveau, Wikipédia vous sera d'un grand secours si vous voulez en savoir plus. Mais on arrive dans cette immense église. Puis quand on entre, il y a une pierre, là, une pierre grise, blanche, qui est là. Puis il y a des gens qui sont à genoux, en fait, devant cette pierre, qui sont assis, puis qui baisent cette pierre. Ils mettent de l'huile aussi, effectivement. Parce qu'il paraît que c'est là que le corps de Jésus a été couché. Et Je ne peux pas vous dire comment elle reste de l'église parce qu'on m'a demandé de sortir parce que j'étais en short. Donc je n'ai pas pu entrer, je n'ai pas insisté pour aller voir la suite de l'église. Mais j'ai été frappé, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y ait une telle religiosité? Et puis, c'est un truc que tout le monde va voir, que tout le monde va faire. C'est présent, c'est là. Et on sent bien que c'est une façade, c'est une vitrine. Et puis, une des choses faciles qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est se dire, ah, mais moi, je suis un bon chrétien, je suis évangélique, je ne suis pas comme tous ces gens qui prient. Heureusement, Seigneur, que je ne suis pas comme celui d'à côté qui ne sait pas prier. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, quand même. Pendant ce voyage, j'ai quand même été confronté à ma propre religiosité. Puis je me suis dit, mais est-ce que dans ma vie, je ne suis pas un petit peu la même chose, finalement? Est-ce que je ne me pars pas d'une belle façade de bon chrétien, puis que c'est juste une façade? Puis je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin de cette façade? Enfin, je crois tous, à un moment donné ou un autre de notre vie, on a cette façade de religiosité. Mais si tout le monde va voir à Jérusalem tous ces lieux, alors il y en a une partie, c'est juste du tourisme, parce que voilà, il faut aller à Jérusalem et puis prendre une photo devant l'église du Saint-Sépulcre, parce que comme ça on peut la mettre sur Instagram après, et puis on a plein de likes. Mais il y en a quand même une partie où il y a un intérêt sincère, et puis où ils pensent faire une bonne action comme ça. Et je crois que dans notre religiosité de tous les jours, on reproduit exactement le même schéma. C'est que, et moi le premier, hein, quand je dis « on », des fois on me dit « tu dis trop vous dans les prédications, je suis désolé, je me mets vraiment pleinement dedans ». Mais des fois on construit un vernis bien beau, bien propre, bien lisse. C'est ces vieux meubles là où on fait un vernis qui brille et puis dès qu'on pose un doigt dessus, il y a une marque dessus. Alors c'est le genre de meuble où il ne faut surtout pas que les enfants s'approchent parce qu'ils font une trace de main dessus, c'est la catastrophe. Bah, des fois dans nos vies, on a envie que ce soit un peu pareil. Puis on prend nos prières, et puis on lustre, et puis on prend nos bonnes actions, puis on lustre, on compte les réunions, on va à l'église, puis on donne encore un petit coup de patte pour que ça brille encore plus. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et quand je suis rentré, et puis aussi là-bas, j'ai lu le psaume 51, c'est pour ça que je l'ai pris dans la première partie du culte, et j'ai vraiment été frappé par ce psaume. Parce que ce psaume, il commence, bon d'abord il y a l'introduction qui rappelle les circonstances dans lesquelles ont été écrits ce psaume. Ça commence au chef des chantres, si, peut-être que tu peux l'afficher, au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est une histoire assez terrible dans l'Ancien Testament où David voit une belle femme depuis son balcon qui est nue et puis il se dit « Waouh, quelle belle plante, c'est la femme de qui ?» Puis on lui dit « Ah, c'est la femme d'Uri le Hittite. » Et puis il se dit « Bon, Uri le Hittite, il est à la guerre, peut-être, je me suis demandé une fois s'il se disait, mais en plus, il est étranger, donc ce sera encore plus facile de le rouler, c'est pas, je me suis posé la question. Bref, il fait venir Bathsheba, il couche avec, ce qui devait arriver arrive, Bathsheba tombe enceinte, elle le fait dire à David, et David, d'un coup, il se dit, mais zut, Uri, il va découvrir que je suis allé coucher avec sa femme. Alors, il fait revenir Uri dans le but qu'il ait couché avec sa femme, ça fonctionne pas. Alors bon, il se dit, on va pas s'ennuyer avec ça, hein. Il écrit une lettre qu'il donne à Uri pour le chef de son armée, et il dit, mais dans cette lettre, il dit à Joab, le chef de son armée, mets Uri au front, de sorte qu'il meure. Et donc Joab exécute l'ordre, il s'arrange pour que Uri meure sur le champ de bataille. Voilà une faute que David a commise, et d'ailleurs plus tard dans la Bible, j'aurais dû noter les références, je ne les ai pas toutes notées, Dieu dit que David a été selon le cœur de Dieu, excepté dans l'histoire avec Bathsheba. Et c'est Nathan qui a été envoyé par Dieu pour dire, mais David, là, tu as péché, tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et c'est à cette occasion que David écrit ce psaume. Et je trouve de se dire, c'est là qu'il a écrit ce psaume, ça donne de la profondeur à ce psaume. Et il commence, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Et je crois, si on se fait un beau vernis dans nos vies, d'ailleurs, il n'est pas que religieux, hein, le vernis. Des fois, c'est aussi la belle voiture, c'est aussi le bel appartement, une jolie femme, de beaux enfants. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de choses. La capacité de boire deux bouteilles de vodka à la suite, la capacité de fumer trois, quatre, cinq, dix joints par jour. Enfin, il peut y avoir plein de choses selon le contexte dans lequel on évolue qu'on met pour avoir un beau vernis. Et une des raisons pour lesquelles on fait ça, c'est parce qu'on a tendance naturellement à se confier dans nos propres capacités plutôt que dans la bonté de Dieu. Et quand on a péché, ben on essaye toujours de se racheter d'une manière et d'une autre. Et pitié de moi dans ta bonté, selon ta miséricorde, efface mes transgressions. Et moi, ça m'a frappé, parce que je me suis dit, mais oui, si je crois que parce que je fais, je peux m'approcher de Dieu, c'est parce que d'une certaine manière, plutôt que de placer ma confiance dans la bonté de Dieu, je la place ailleurs. Je la place en moi ou dans d'autres choses. Lave-moi complètement de mon iniquité. Efface mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et là, quand j'ai réfléchi sur ce psaume, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne colle pas. David dit, j'ai péché contre toi seul. Attends, il allait chercher la femme d'un autre, il a perdu une bataille militaire pour faire zigouiller un gars, puis après il dit, j'ai péché contre Dieu seul. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous pousse à mettre un vernis, c'est qu'on croit que les conséquences de nos actes sont seulement autour de nous. Hein, si on a roulé quelqu'un dans la farine pour faire une bonne affaire, on a l'impression que la seule personne qu'on a dérangée, c'est celui qui était roulé dans la farine. Même chose pour les autres péchés. Et David dit, j'ai péché contre toi seul. Dieu, il se préoccupe de ce qu'on fait, de tous nos gestes, de tous nos faits et gestes. Et quand on fait quelque chose de mal, la première personne qui est offensée, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Hein, puis de la même manière qu'il a permis que la mosquée soit construite sur le temple, ben, il nous laisse la liberté pour faire des choses qui sont contraires à sa volonté. Ah, c'est quelque chose d'assez étrange. Mais du coup, quand on fait quelque chose de mal, la première personne qui est offensée, c'est Dieu. Et quand David dit ça, j'ai péché contre toi seul, je ne crois pas qu'il est en train de nier ce qu'il a fait à Bathsheba, ce qu'il a fait à Uri, ce qu'il a fait à tout le reste du peuple. Je crois qu'il était sincèrement désolé, et puis tout ce qui va avec par rapport à ça. Mais il dit, j'ai péché contre toi seul pour dire, mais Dieu, tu es la première préoccupation dans ma vie, et je sais que tu es le premier à en être offensé. En sorte que tu seras juste dans sa sentence, sans reproche dans ton jugement. Et là aussi, des fois, on a de la peine à accepter la conséquence de nos péchés. Et si vous relisez, je vous laisserai relire l'histoire de David et Bathsheba, qui se trouve en 2 Samuel, mais ça, c'est la sentence que Dieu donne à David suite à cette histoire, est assez lourde hein, quand même. Hein, tu es allé coucher avec la femme d'une autre, mais il y a quelqu'un qui va venir coucher avec tes femmes. Puis quand ça s'est fait, c'était pas joli, hein, c'était pas juste le soir dans la chambre, hein, c'était aux yeux de tout le monde sous une tente. Tu as fait couler le sang, eh bien le sang ne s'éloignera jamais de ta famille. C'est une sentence qui est hyper lourde. Et David il dit, mais ok, j'ai péché contre toi, ta sentence sera juste, ton jugement sera sans reproche. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? La sexualité, c'est quelque chose de pas bien, puis que c'est pour ça qu'il est né dans le péché. Je ne crois pas que ce soit par rapport à ça. Vraiment, il se dit, mais je suis pécheur au plus profond de mon être. Vous savez, c'est quand on pêche, des fois, c'est un peu comme quand on casse un verre. On verse un verre sur la table, il se casse. On dit, oh, mais Seigneur, pardon, excuse-moi. Puis on gigote dans tous les sens, puis pouf, on pousse le vase. Ensuite, on renverse la télé, puis on commence à casser tout ce qui est autour de nous. Puis on s'attarde sur ce verre qu'on a vu tomber, et puis pour lequel on dit pardon, Seigneur. Puis on dit pardon pour ce verre qui a été cassé, au lieu de dire, mais Seigneur, je suis pécheur dans ma nature, pardonne-moi pour ce verre qui est tombé, mais en plus, pardonne-moi, parce que je suis pécheur et j'ai besoin que tu me transformes. Si tu ne viens pas me transformer dans ma nature, comment est-ce que je ferai? Parce que je suis né pécheur et j'ai besoin que tu me rachètes. Et c'est ça que David dit, voici, je suis né dans le péché, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et là aussi j'ai été frappé, parce que j'imagine que ce n'est pas sans lien avec ce qu'il a vécu. Parce que l'enfant qui est venu au monde, entre David et Bathsheba, Dieu a dit, il ne vivra pas. Puis David a été triste, il a jeûné pour une semaine, et après il est mort. Et je pense que ça a dû beaucoup faire réfléchir David. Il s'est dit, mais pourquoi? Puis il s'est dit, mais en fait, moi aussi, moi je suis né pécheur, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais ce que Dieu veut, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer en moi la sagesse au-dedans de moi. Dieu, il ne veut pas nous laisser moisir dans nos problèmes, dans notre péché. Il veut nous en délivrer, parce que ce qu'il veut, ce n'est pas simplement nous punir, hein. T'as fait ça, allez, une baffe, t'as fait ça, une autre baffe, tu vas comprendre. Non, Dieu, il veut que la vérité soit au fond du cœur. Et pour cela, on a besoin du secours de Dieu pour qu'il fasse pénétrer sa sagesse au-dedans de nous. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Dieu est capable de purifier. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Si vous étiez à la place de David, ou bien peut-être, plutôt que d'être à la place de David, pensez aux péchés que vous avez commis. Ah, peut-être pensez les plus terribles. Là, je vous laisse réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous auriez fait comme David, aller vers Dieu? Mais il a fait plus que ça, parce qu'il a écrit ce psaume. Et ça commence lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David soit allé vers Bathsheba. Il reconnaît publiquement son tort. Il n'essaye pas de magouiller le truc en disant « mais non, ça s'est passé comme ça, et puis patati, il y avait des circonstances atténuantes, et puis c'était pas vraiment moi. » Il écrit un psaume qui est destiné à être lu par l'ensemble du peuple. Et là, je vous dis, le vernis de religiosité, il craquait, il explose. Et nous, face à notre péché, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on veut le couvrir d'un beau vernis, ou est-ce qu'on est prêt à aller vers Dieu, à reconnaître sincèrement nos torts envers tous ceux qu'on a offensés? Ben, je crois que si David, il le fait, c'est pas parce que nous, on doit aussi faire et puis dire écrire un article dans le journal parce qu'on allait tromper sa femme. Mais si David il le fait, c'est parce qu'en allant coucher avec Bathsheba, il a offensé tout le peuple, parce qu'il avait une responsabilité vis-à-vis du peuple. Et il veut reconnaître sa faute envers tous ceux envers qui il a une responsabilité. Est-ce que nous, on est prêts à faire la même chose pour faire péter ce vernis de religiosité et atteindre la vraie foi? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et ça, on ne peut pas le faire. Ça se passe seulement dans l'intimité avec Dieu. ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et c'est ça qu'on a besoin, que Dieu il nous rende la joie de notre salut. Vous savez, quand on s'est converti, on était bouillonnant, on pétait le feu. Puis des fois, cette joie, elle s'estompe. Revenons à Dieu pour qu'il nous remplisse de la joie de son salut. Allons vers Dieu pour dire, mais ne me retire pas ton Esprit Saint. Nous avons besoin que Dieu nous remplisse. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Les pécheurs reviendront à toi. Quel est l'impact de notre foi sur notre entourage? Un meuble bien verni, il n'y a personne qui ose le toucher. Vous savez, quand c'est comme ça chez quelqu'un, j'essaie de dire aux enfants, venez sur mes genoux, allez pas toucher ce meuble. Puis c'est la même chose si nos vies elles sont bien vernies par un bois, par quelque chose de religieux, les gens ils se disent, mais oh, il est beau ce meuble, vous avez vu? Faut pas trop s'en approcher, hein, parce qu'on risquerait de le salir. Mais la conséquence de la joie du salut que Dieu met dans nos cœurs, c'est qu'on a envie d'aller proclamer cette joie. C'est qu'on va enseigner les chemins du Seigneur à ceux qui les transgressent. Et je crois que quand on est touché par la grâce de Dieu, ben les gens ils voient qu'on est touché et ils se disent « Mais cette table, elle est parfaite pour se réunir. On va poser nos verres dessus et on va boire un bon café. » Alors au début, ce ne sera peut-être pas du café, je pense au début, ce sera des bières et de la vodka. Parce que ceux qui ont besoin de Dieu, ce n'est pas ceux qui sont justes, c'est ceux qui sont pécheurs. Alors n'ayez pas peur, hein, même si on pose des bières et puis de la vodka sur votre table, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur si vous êtes entouré de gens qui sont pécheurs. Parce que si c'est le cas, c'est que Dieu il va accomplir une œuvre au travers de vous. Il veut que vous puissiez leur annoncer, leur enseigner les voies du Seigneur. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du son versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Et ce psaume nous invite vraiment à aller tel que nous sommes, au pied de Dieu, et laisser un petit peu le reste de côté. Alors qu'est-ce que ça veut dire aller tel que nous sommes? Peut-être c'est ce matin, mais moi je pensais plutôt quand vous serez chez vous à la maison, ce soir dans votre lit, demain matin en vous réveillant à la pause de midi, puis que vous allez dire « mais maintenant je prends un temps avec Dieu ». Pour chercher sa face. Puis peut-être vous allez prendre un psaume, peut-être vous allez prendre un passage des évangiles, de la Genèse ou un autre passage, vous allez dire, mais Seigneur, j'ai envie de te rencontrer. Et Dieu va venir à votre rencontre. Puis vous allez pouvoir lui dire, mais Seigneur, je ne comprends pas tes voies. C'est quoi le prochain pas? C'est où le chemin? Puis là, tu vois, je me suis cassé la figure. J'ai besoin de toi. Pendant notre voyage en Israël, on est aussi allé à Nazareth. Puis à Nazareth, il semblerait que ce soit là que l'ange Gabriel se soit révélé à Marie. Et puis au lieu même où l'ange s'est révélé à Marie, alors ne me demandez pas comment ils ont fait pour savoir que c'était là, mais au lieu même, il y a une immense basilique. Alors c'est assez magnifique, quand on est arrivé, on n'a pas pris le chemin principal, on est passé par derrière en fait. Alors c'était assez sympa, il n'y avait personne. Et puis on est arrivé et c'est magnifique, on entre, il y a des murs tout autour pour faire la cour, puis on entre, puis il y a des magnifiques tableaux de Marie qui ont été offerts par d'innombrables pays. Alors on voit Marie seule ou tenant un bébé dans les mains, enfin, ça c'est rigolo, il y a des Maries chinoises, il y a des Maries africaines, il y a des Maries européennes, il y a toutes sortes de Maries. On arrive devant la porte, il y a une magnifique porte qui relate la vie de Jésus. Puis on entre, puis il y a une église en béton, mais ils ont bien travaillé le béton pour que ce soit sobre, mais joli. C'est une église en deux niveaux, puis au centre, on arrive, puis ils ont symbolisé la naissance de Jésus. Puis il y a une sorte de puits, puis en haut, on peut voir la même chose en bas. Enfin, bref, c'est une magnifique église. Et puis, après, forcément, une immense cour. Enfin, j'ai pas fait tout le tour. J'ai dû... je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable. Jésus, il est né dans une étable. Il a choisi de venir simplement sur terre. On dit entre un bœuf et un âne. Puis les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné ce que Jésus n'avait pas voulu. Ils ont construit une magnifique cathédrale qui a dû coûter des millions. Et vous savez quoi? Ça marche. Les gens, ils viennent. Les gens, ils vont voir. Ah, c'est comme tout le reste, au sens et plus. Ça marche, les gens, ils vont voir, ils sont contents, ils repartent avec le sourire aux lèvres. Mais si Jésus, il est venu dans une étable, c'est pourquoi? C'est pour montrer que la vérité, elle se trouve pas toujours là où c'est éclatant, là où c'est tout beau. C'est pour montrer que ce qui l'intéresse, c'est pas les bling-bling. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on vit avec lui, c'est ce qu'il y a au profond de notre cœur, dans la simplicité. On n'a pas besoin de faire tout un fatras. Il est tout content si on l'invite à boire une tasse de café. Il n'y a pas besoin de déboucher une bouteille de 1911. Il n'y a pas besoin de faire 15 plats quand on l'invite à manger. Si on partage des spaghettis avec lui, il est tout content. Pour autant qu'on l'accueille avec un cœur grand comme ça. C'est pour ça qu'il est né dans une étable. Et dans notre propre vie, c'est souvent la même chose. On veut faire un immense truc pour Jésus, mais on oublie que le principal, c'est pas l'immense truc, c'est le cœur à cœur avec Jésus. Et quand on était à Jérusalem, c'est une ville magnifique, hein, mais il n'y a pas que la Via Dolorosa qui est magnifique. Puis on s'est dit, on va la Via Dolorosa, si elle est là, on s'est dit, on va faire un petit tour pour ne pas passer, faire l'aller-retour sur la Via Dolorosa. Oui, le chemin de la passion, français. Le chemin de la passion. Et puis on est passé dans les petites rues adjacentes et il n'y avait personne. Personne. Et c'était magnifique, on s'est même trompé à un moment donné, je me suis dit, normalement il y avait une rue qui s'arrêtait un petit peu mais qui reprenait, puis je me suis dit, normalement on peut passer par là. Puis on est arrivé... On s'est dit, mais c'est un cul-de-sac. Puis après, il y a des enfants qui se disent, non, c'est là-bas. Puis après, on est entré dans une sorte de cour. Puis on s'est dit, mais c'est pas là. Puis il y a une femme qui a dit, si, c'est là. Elle parlait pas anglais. Enfin, c'est un peu compliqué. Puis elle va chercher. Puis un prêtre orthodoxe qui est venu. Puis qui nous a ouvert une petite église magnifique. Qui était, paraît-il, le lieu où Jésus et Nicodème ont discuté. Alors là, de nouveau, ça c'est des. Où est-ce qu'ils ont discuté? On n'en sait rien. Mais bref, les orthodoxes ont construit une chapelle là. Et c'était super joli comme chapelle. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne vont pas la voir. C'était très sympa. Il y avait plein de lampes dans l'église. C'était une église assez traditionnelle avec une voûte. Et puis ils avaient suspendu des lampes. Vous savez pourquoi? Parce que Nicodème est allé causer la nuit avec Jésus. Et il a vu la lumière. Enfin, j'imagine que c'est pour ça, je ne lui ai pas posé la question, il parlait grec. Et si on sort un petit peu du bling-bling de la foi, peut-être qu'il n'y aura personne. Peut-être qu'à yeux humains, ça ne marchera pas. Mais vous allez emprunter des chemins, vous allez être heureux, vous allez être content. Vous allez vivre des choses que personne d'autre ne va vivre dans l'intimité avec Dieu. Et il me semble que si Dieu a laissé une mosquée être construite à l'endroit du temple, c'est pour nous rappeler que ce qui lui importe, c'est pas un beau bâtiment, c'est pas une victoire politique, c'est pas plein d'argent. Ce qu'il veut, c'est toucher notre cœur, c'est une relation intime avec lui. Et je vais juste lire un tout petit passage pour conclure, en Jean 2, versets 19 à 25. Jésus leur répondit, Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus connaît parfaitement notre cœur. Pas besoin de vernis. Et le temple, pour être en connexion avec Dieu, c'est Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu grand. On te demande pardon pour le vernis de religion, le vernis de bonne apparence, le vernis de succès que nous mettons dans nos vies. Alors que derrière, des fois, c'est pas comme ça. On veut venir vers toi, simplement comme nous sommes. On a envie, d'une certaine manière, de manger un plat de spaghettis avec toi parce que on mange des spaghettis avec les personnes avec qui on est proche, avec les personnes avec qui on est le plus intime. Et c'est ce qu'on a envie d'être avec toi. On a envie d'être proche de ton cœur. Seigneur, on ne peut rien faire pour toutes les mauvaises choses qu'on a faites, pour ce vernis qu'on a mis, on ne peut pas l'enlever. On n'y arrive pas, mais toi, Seigneur, tu peux créer en nous un cœur pur. Seigneur, on te le demande, humblement, avec un esprit brisé. Seigneur, on te prie de faire craquer ce vernis et que nos vies soient une table sur laquelle on puisse poser une bonne pinte de bière, Seigneur, pour que nous puissions enseigner tes voies à ceux qui les transgressent. Seigneur, on te prie de nous rendre la joie de ton salut. Que nos vies rayonnent de ta bonté. Que nous soyons bouillonnants pour toi. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.